des masterclass de France Culture. Aujourd'hui, David Diop avec Chloé Cambrelin.
Merci beaucoup, David Diop, d'être avec nous pour cette masterclass en public, ici au Théâtre de la Ville, Espace Cardin à Paris. Durant une heure, nous allons explorer la manière dont vous travaillez, dont vous écrivez. Le principe de cette collection de masterclass étant de comprendre comment un artiste construit une œuvre au sens de la fabrication de celle-ci. Vous êtes né, David Diop, en 1966 à Paris, d'un père sénégalais et d'une mère française. Vos parents se sont rencontrés pendant leurs études. Ils sont partis avec vous au Sénégal lorsque vous aviez 5 ans. Vous avez donc passé votre enfance et votre adolescence à Dakar, avant de revenir en France pour vos études supérieures, à Toulouse, en classe préparatoire, puis à Paris, à la Sorbonne. Après avoir soutenu une thèse portant sur les origines intellectuelles de la philosophie politique dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, vous devenez en 1998 maître de conférences en littérature du XVIIIe siècle à l'université de Pau, poste que vous occupez toujours aujourd'hui. En 2012 paraît votre premier roman, 1889, L'attraction universelle aux éditions de L'Harmattan. 6 ans plus tard, immense succès en France et dans le monde avec Frère d'âme, Au seuil, Prix Goncourt des lycéens, Prix Kuruma, International Booker Prize, nous en reparlerons bien sûr. Et puis en août 2021, vous avez publié votre troisième roman, Au seuil également, La porte du voyage sans retour. 3 romans, David Diop, bien différents, mais dans lesquels il y a la France et le Sénégal. Vous dites que l'écriture est ce qui vous permet de faire vivre ensemble vos deux sensibilités, française et sénégalaise. Pouvez-vous nous expliquer cela et ce que ça veut dire de votre rapport à l'écriture ?
Alors merci d'abord pour votre invitation à parler de l'écriture. Je dis souvent que j'ai deux sensibilités culturelles, parce que chacun... s'il dit appartenir à une culture, prétend qu'il maîtrise la globalité de cette culture, qui a comme sorte de connaissance intime de tous les aspects de cette culture, alors que on pioche du fait de notre éducation, de notre histoire, des circonstances, des choses dans cette culture que d'autres ne remarquent pas. Et donc on se fait sa culture dans une culture, c'est ce que j'appelle une sensibilité culturelle. Et j'ai deux sensibilités culturelles qui s'interpénètrent, c'est-à-dire que j'appréhende la culture française aussi, non pas par rapport à une connaissance que j'aurais de cette culture du fait de vivre en France depuis longtemps, mais à travers aussi le prisme sénégalais, et l'inverse est vrai. Donc, quand je dis que quand j'écris, je concilie ces deux sensibilités culturelles, en fait, je me rends compte que je formalise quelque chose qui est un peu informe, qui est un peu indistinct, qui est dans ma vie de tous les jours et qui m'accompagne dans mes rapports avec les gens, que ce soit en France et au Sénégal. Et en fait, l'écriture, c'est ça, c'est rendre compte à moi-même peut-être d'abord de ces échanges incessants entre ici et là-bas.
Alors vous aviez 46 ans lorsque vous avez publié votre premier roman. Auparavant, il y avait eu une nouvelle que vous aviez envoyée pour un concours organisé par RFI. Vous n'avez pas eu de réponse. Bon, 46 ans, pourquoi à ce moment-là, David Diop, était-ce un désir enfoui jusque-là ? Est-ce que ça s'est imposé à ce moment-là ? Finalement, pourquoi est arrivé ce premier roman à cet âge-là ?
Alors, c'est peut-être un âge canonique hein, pour commencer à écrire, mais c'est que, je le dis, c'est pas une boutade, j'ai appris à vivre avant d'écrire. J'ai l'impression d'être... arrivé au bout d'un processus intellectuel qui m'a donné l'autorisation, je me suis donné l'autorisation à moi-même d'écrire assez tardivement. Bon, c'est vrai qu'il y a les circonstances de la vie qui ont fait que je n'ai pas pu peut-être avoir l'esprit assez libre pour m'adonner à l'écriture. Mais quand je dis m'adonner à l'écriture, c'est pas tout à fait juste. J'ai besoin de la contrainte aussi d'une activité professionnelle, comme si Écrire, c'était voler du temps. J'ai construit donc une carrière professionnelle, universitaire, et puis, je veux pas dire que je suis arrivé au bout de cette carrière, mais en tout cas, je suis arrivé au point où je voulais en arriver, et là, j'ai eu le sentiment que je pouvais me permettre d'écrire. Alors, ma nouvelle...
Envoyée
à RFI, donc qui fait partie de la maison Radio France.
Cousine, on va dire.
Eh bien, elle n'a pas reçu de réponse. Enfin, je n'ai pas reçu de réponse après avoir envoyé cette nouvelle. Et tant mieux.
Et tant mieux, parce que ça aurait été trop tôt, c'est ça?
Je pense.
Alors, vous vous êtes donné l'autorisation, donc, à 46 ans. Mais est-ce que vous avez toujours su que ce moment allait arriver?
Oui, je pense, parce que rétrospectivement, quand je réfléchis à la façon dont j'ai écrit Frères d'âme, par exemple, je me rends compte que j'ai pensé souvent à, en lisant telle ou telle chose, à j'aimerais reprendre cette chose, peut-être l'intégrer dans une œuvre de fiction. Il se trouve que pour Frères d'âme, qui raconte donc l'histoire de tirailleurs sénégalais, d'un tirailleur sénégalais qui perd un peu pied sur les champs de bataille en France, eh bien ça fait près de 20 ans, enfin en tout cas 20 ans avant d'écrire, que j'avais accumulé des informations. Alors je pense que je me disais que je me servirais de toutes ces choses-là, mais le plus petit dénominateur commun entre ces objets... c'est qu'ils touchaient à, qu'ils avaient une dimension affective. C'est-à-dire que dans l'histoire de ma famille, il y a un arrière-grand-père du côté maternel qui a été poilu et qui n'a jamais parlé de ce qu'il avait vécu. Et j'ai toujours regretté qu'il n'ait jamais rien dit à ma mère qui me l'aurait rapporté. Et ma mère m'a confirmé que cet homme-là, qui s'appelait Henri, charpentier dans les Landes, était revenu et avait repris le travail sans rien dire après avoir été quand même gazé à l'hypérite et donc avoir probablement beaucoup souffert de la guerre. Et je me suis toujours demandé, vu que quand ma mère m'en parlait, j'étais au Sénégal, est-ce qu'il a rencontré des tirailleurs sénégalais? Et je pense que c'est lié à cette histoire familiale aussi, cette volonté de creuser, d'engranger les informations et finalement d'inventer ensuite un récit fictif où il y a peut-être une part de ce que j'ai imaginé que ce que mon arrière-grand-père a pu vivre ou voir.
Et on en revient aux deux sensibilités culturelles au début. Alors nous allons bien sûr parler de Frères d'âme et de la manière dont vous avez travaillé ce roman. Avant cela, David Diop, justement, vous avez eu du mal... même après le succès de Frères d'âme, à vous dire écrivain. Est-ce que vous le dites aujourd'hui? Est-ce que vous dites « je suis écrivain » ?
Eh bien, le fait que vous m'ayez invité à cette émission me permet de le croire. Mais être écrivain, c'est aussi avoir un rapport, évidemment, c'est une évidence, avec des lecteurs. Et j'ai eu vraiment un choc, dans le bon sens du terme, d'avoir à faire l'épreuve et finalement à rendre compte de ce que j'avais écrit à des lecteurs qui me demandaient des comptes en toute bienveillance. Et cet échange-là m'a vraiment fait progresser aussi dans mon métier d'enseignant de la littérature, parce que la part d'intentionnalité qu'on prête aux écrivains, évidemment, elle est utile pour bien essayer d'expliquer des textes, les remettre en contexte et leur donner une logique ou une cohérence. Mais quand on passe au statut entre social d'écrivain, eh bien, on se rend compte que les couches de sens sont extrêmement nombreuses et que le texte, en fait, se nourrit. Et moi, je me nourris des lectures qui sont faites sur mon texte.
Et qui peuvent vous surprendre parfois.
Qui m'ont surprise à plusieurs reprises parce que je ne pouvais pas les refuser. C'est-à-dire que c'était justement par rapport à cette question de l'intentionnalité, une sorte de question posée à ce que j'avais voulu dire. Et ce que j'ai voulu dire dépasse peut-être ce que j'avais envisagé de dire. Ce que j'ai écrit dépasse ce que j'avais envisagé de dire. Donc l'écrivain, c'est celui qui assume cette multiplicité de discours possibles et qui admet et qui les reçoit et qui s'en nourrit. Alors que la première fois que vous rencontrez un public avec un livre, vous ne savez pas quoi dire. Moi, quand j'ai publié Frères d'âme, je ne parle pas de 1889, l'attraction universelle qui n'a pas été lue, sauf par des personnes dont je connais le prénom.
Nous en parlerons un peu quand même.
L'âge, l'âge, le prénom, même l'adresse. À part ces gens-là, je n'avais pas rencontré les lecteurs. Et le fait de rencontrer des lecteurs dans des endroits très différents dans le monde et de devoir commenter mon livre, alors que moi, je pensais qu'une fois qu'il avait été écrit, il n'y avait plus rien à dire. J'ai appris à tenir un discours sur ce que j'avais écrit. Et ces discours se construisent dans l'échange avec les lecteurs.
Et c'est donc de là que vous êtes devenu, en tout cas à vos yeux, écrivain.
Je pense.
Vous êtes parfois, dans les articles qui vous sont consacrés, David Diop, présenté comme historien. Ce que vous n'êtes pas au sens strict, mais au-delà du fait que vous êtes maître de conférences en littérature du XVIIIe siècle, ce qui fait sans doute que vous êtes volontiers présenté comme historien, c'est que, comme écrivain, vous travaillez avec l'histoire, à l'intérieur de l'histoire, dans les interstices de l'histoire, dites-vous, pour présenter tout de même vos trois romans. Le premier, donc 1889, l'attraction universelle, raconte les mésaventures d'une délégation venue de Saint-Louis du Sénégal à Paris pour l'exposition universelle. Le deuxième, Frères d'âme, met donc en scène un tireur sénégalais, Alphand Diaye, pendant la Première Guerre mondiale. Et le troisième, La porte du voyage sans retour, a pour personnage principal Michel Adanson, naturaliste botaniste du 18e qui a réellement existé et a passé plus de 4 ans au Sénégal. Alors comment la littérature vient-elle prendre place dans ces cadres historiques? Vous parliez tout à l'heure de contraintes. Et comment se fait l'articulation finalement entre les deux pour vous, entre l'histoire et la littérature? Quelle est l'épaisseur du cadre, si j'ose dire, et quel est son périmètre?
Alors, pour chacun des livres, j'ai un rapport avec l'histoire qui est différent. Pour 1889, l'attraction universelle, je me suis renseigné pendant de très nombreuses années sur ce qu'avait pu être l'exposition universelle de 1889, à la suite de la lecture d'un article écrit par Pascal Blanchard sur les os humains. Mmh. Et ça impliquait un processus de recherche, là aussi, alors selon des méthodes que j'utilise pour mon travail de chercheur à l'université, qui a fait que j'ai accumulé des informations et que j'ai ressenti le besoin d'inventer une fiction pour finalement rattacher ou donner une cohérence à cet ensemble-là. Et il y avait une raison aussi qui était une raison, dans le fond, liée à cette volonté de comprendre les rapports entre la France ou l'Europe plus généralement et l'Afrique à travers justement ces moments historiques où finalement l'histoire le dispute avec la fiction déjà, parce qu'on a des personnages qui apparaissent par exemple à une exposition universelle qui sont assez originaux, qui se révoltent contre un état de fait, et ça a toujours été intéressant pour moi. C'est une rencontre, certes, une rencontre difficile, mais une rencontre qui est enrichissante, puisqu'elle indique ce que cette rencontre a pu susciter comme émotion. Et moi, je pense que la littérature, en tout cas celle que je pratique, joue sur cette émotion pour comprendre justement le monde et le contexte dans lequel ces rencontres se font. Donc ça a été un travail assez important pour 1889, l'exposition universelle. L'attraction universelle, pardon. Oui. Et pour Frères d'âme, j'ai eu une démarche différente. C'est-à-dire que je me suis nourri de travaux d'historiens sur les tirailleurs sénégalais. Et il y en a en France. Hein. Il y a, par exemple, la thèse de Marc Michel sur les tirailleurs sénégalais. Il y a Pierre Bouvier aussi qui travaille sur cette question-là. Mais je me suis dit cette fois-ci que j'allais me libérer de ce décor ou de de l'épaisseur du cadre, la réduire, comme pour reprendre votre expression. Et j'ai lu ces textes-là sans prendre de notes. Tout universitaire qui se respecte prend des notes quand il lit un livre. Et là, j'ai choisi de ne pas le faire parce que justement, je pensais écrire une fiction et que je voulais qu'au moment où je prenne ma plume, au moment où je me mette à écrire sur ce tirailleur sénégalais, ou en tout cas au moment où je serai son porte-parole, eh bien, ne remonte à ma mémoire que des choses qui m'avaient touché d'un point de vue affectif. Notamment, je donne un exemple, c'est l'exemple du coupe-coupe. Je suis tombé dans la thèse de Marc Michel sur ce passage où il explique que l'armée française avait choisi d'intégrer dans l'uniforme français un coupe-coupe. Ça m'a tellement frappé que c'est devenu une sorte de matrice, finalement, d'écriture du roman, et ça a structuré la fiction. Donc c'est un exemple parmi d'autres. Mais là, si vous voulez, il fallait qu'au moment de l'écriture, il n'y ait pas le frein du retour à un texte que j'aurais annoté, je retrouverais la page. Non, il fallait que ça monte et que finalement ce ne revienne que ce qui était frappant, émouvant et fort. Pour ce qui concerne la pente du voyage sans retour, là c'est une rencontre aussi très ancienne avec un botaniste, Michel Adanson, qui a véritablement existé. Et qui est un peu comme, j'ai un ami presque, puisque j'ai beaucoup lu sur ce qu'il avait écrit. J'ai pris des notes parce que j'ai écrit des articles académiques, on va dire, sur ce voyageur-là, puisque mon sujet de recherche c'était les récits de voyage, et j'ai trouvé que c'était un récit de voyage tout de suite extrêmement émouvant, extrêmement frappant, extrêmement original. Un botaniste qui arrive à l'âge de 23 ans au Sénégal en 1749, et qui me parle d'un Sénégal de réalité, si vous voulez, que moi je connaissais, culinaire, la sensation de l'air, les maquillages, le henné sur les mains, des choses que j'avais rencontrées et qui sont racontées 3 siècles avant, ça m'a tout de suite passionné. Et surtout, la nouveauté de son regard. Donc là, si vous voulez, j'ai eu une lecture affective tout de suite. Et dans l'écriture, ça, il n'y a pas eu de problème pour ressusciter ces émotions que son texte m'avait fait éprouver.
Pour revenir au premier roman, 1889, l'attraction universelle, qui a été d'ailleurs dans une collection de l'Harmattan, roman historique, comme vous l'avez fait remarquer. C'est donc 11 personnes venues de Saint-Louis du Sénégal à Paris pour l'exposition universelle. Il et elle sont très impatients, heureux de ce voyage, mais vont vite déchanter. Le groupe refuse de jouer le rôle qu'on lui demande de jouer, refuse d'être un objet d'exposition, en fait. Elle se retrouve punie, envoyée dans un cirque à Bordeaux, où le directeur entend monter un spectacle de nègres avec la complicité d'un député. Vous m'avez dit, David Diop, ce premier roman était un roman laboratoire. Alors, vous nous expliquez comment vous avez travaillé pour l'aspect justement historique, la documentation. Mais je trouve intéressante cette expression de roman laboratoire. Si là, vous essayez d'y retourner à l'époque, dans ce laboratoire, que s'y passait-il et comment s'est déroulée cette expérience de premier roman en termes d'écriture?
C'est un retour, Chloé, douloureux que vous voulez me faire faire. Je dis le roman laboratoire parce que je n'avais pas encore trouvé ma manière d'écrire. Je vous ai dit que j'ai accumulé beaucoup de données historiques, d'informations. Et puis, j'ai réparti l'écriture là sur un temps qui était trop long pour moi. C'est-à-dire que je n'ai pas assez concentré le moment de l'écriture. Et j'ai, à ce moment-là, ajouté, si vous voulez, des données au fur et à mesure que je les trouvais, dans une volonté d'être exact, alors que c'était pas l'objectif. Et c'est un roman laboratoire aussi. Pour des raisons purement matérielles, je n'avais pas trouvé ma façon d'écrire, qui est j'écris manuscritement, en fait. Et là, j'ai voulu écrire sur un ordinateur, comme je le fais pour mes travaux académiques. Et je ne sais pas, il y a une sorte d'alchimie qui ne marche pas. C'est-à-dire que, même si j'arrive à écrire très vite sur l'ordinateur, c'est pas le problème, il y a un geste dans l'écriture, avec la matérialité du papier, la qualité du stylo, je ne donnerai pas d'ailleurs les marques des stylos ni de papier, qui font que, eh bien, il y a comme une sorte de rythme qui s'impose à l'écriture, qui n'est pas imposé par la médiation d'un clavier. J'ai l'impression qu'il y a un flux. Et ça, je l'ai découvert par fraction dans 1889, l'attraction universelle. Je ne recommande pas cette lecture d'ailleurs. Et je pense que si je n'avais pas écrit quand même ce roman laboratoire, je n'aurais pas pu écrire les suivants.
Donc ça n'était pas vain. On peut lui rendre grâce quand même.
Bon, c'est de ce point de vue-là que je lui rends grâce, mais c'est seulement de ce point de vue.
Et c'est déjà pas mal. Donc l'écriture au stylo, que ça désormais pour vos romans depuis cette expérience-là.
Tout à fait. Ensuite, je reprends évidemment le texte manuscrit. J'ai des carnets très particuliers avec un grain de papier très particulier. C'est comme une sorte de monomanie, mais c'est pour moi très important. Il y a comme une sorte de rituel dans l'écriture. D'ailleurs, je suis très intéressé de rencontrer d'autres écrivains pour savoir quels sont leurs rituels d'écriture. Et voilà, pour moi, c'est vraiment un moment important d'avoir compris que ce qui correspondait dans ce que j'écrivais à la sensation, à l'image que j'avais en tête, ne me parvenait pas mieux qu'avec ce stylo et cette feuille, eh bien ça, c'est un moment important pour moi.
Alors, Frères d'âme, vous l'avez donc écrit au stylo. C'est intéressant que vous ayez utilisé le mot flux pour dire que quand vous écrivez au stylo, justement, c'est un flux, parce que flux, c'est ce que vous employez aussi pour décrire Frères d'âme. Donc, on l'a déjà rappelé, c'est Alphand Diaye, tirailleur sénégalais, qui perd son ami, son plus que frère, comme il l'appelle, Mademba, sur le champ de bataille durant la Première Guerre mondiale. Il n'arrive pas à l'achever, il refuse de l'achever alors que celui-ci le supplie, il est mortellement blessé. Et dans cet enfer de la guerre, Alphand Diaye va perdre pied, se permettre l'impensable, tuer et couper des mains de l'ennemi, des mains qu'il ramène dans la tranchée, devenant fou aux yeux des autres combattants, devenant à leurs yeux un soldat sorcier. C'est un récit très fort, violent, beaucoup ont dit une claque. Vous donc, vous dites c'est un flux. Un flux de conscience, une voix intérieure, celle d'Alphand Diaye. Comment retranscrit-on une voix intérieure, David Diop? Du moins, vous, comment avez-vous fait cela?
Alors, c'est né d'une contrainte. Le choix du flux, en fait, du flux de conscience, de la transcription d'un flux de conscience, d'un discours rapporté, il est né de la contrainte suivante. C'était que je voulais, au départ, que mon tirailleur ne sache pas parler le français. Alors, comment faire? Comment faire? L'idée d'avant, c'était de lui faire écrire une lettre. Bon, mais je voulais qu'il ne sache pas parler le français, donc il fallait que je trouve une autre solution. Et j'ai pensé au psychorécit. J'ai pensé que, eh bien, la solution, c'était de ne pas poser de distance ou de ne pas construire une médiation entre sa voix et moi, d'abord. Si ça avait été un roman historique, Frères d'âme, j'aurais fait parler mon personnage en petit nègre. Le petit nègre, c'est une construction aussi de l'armée française. J'ai eu en main un manuel de 1916 qui a été diffusé par l'armée française qui s'intitulait « Comment apprendre le français aux tirailleurs ». Et l'idée, c'était qu'il fallait leur apprendre un français rudimentaire pour une raison pratique, qui était de pouvoir obéir aux ordres très rapidement, mais aussi parce que les langues africaines étaient trop simples et que la complexité et la beauté du français leur auraient été inaccessibles. En tout cas, on n'avait pas le temps de le leur enseigner. Et moi, je voulais justement que mon personnage montre toute sa complexité. Et il me fallait un outil, une langue française, qui puisse traduire cette complexité. Mais en même temps, la difficulté était que je savais qu'il ne parlait pas wolof. Le lecteur devait deviner qu'il ne savait pas parler. Je savais qu'il ne savait pas le français, pardon, et le lecteur devait le deviner. Donc, ce que j'ai trouvé comme solution, c'était de donner un rythme au français qui me rappellerait le rythme d'une langue wolof. Parler dans certaines situations aussi. C'est pas un rythme aussi générique, c'est un rythme qu'on peut entendre dans une situation de discours oralisé, de discours un peu solennel, tel qu'un avocat en français peut plaider et imprimer au français un rythme particulier. Et le jeu, ça a été la répétition. Le moyen que j'ai trouvé, ça a été de répéter certaines phrases, certains bouts de phrases pour changer le rythme du français et indiquer en fait que ce personnage, je traduisais ses pensées en français, mais qu'il pensait en wolof.
Est-ce que vous lisiez à voix haute ce que vous écriviez?
Non. Je n'ai jamais fait passer ce texte au gueuloir parce que c'est une voix intérieure.
Voilà.
C'est la voix d'une conscience. On entre par effraction dans son esprit Et c'est une voix douce, en fait. Même si elle dit des énormités, c'est une voix insidieuse, une voix qui essaie de ne pas être entendue. Et nous, lecteurs, nous faisons effraction. Nous arrivons à entendre cette voix qui n'aurait pas dû être entendue. Et donc, c'était presque plutôt un chuchotement. Il y a des lectures qui sont faites du texte qui sont très intéressantes parce que ce sont des lectures d'une voix douce. Et ça correspond plus à ce que j'imagine, moi, de la voix de ce personnage. Cette douceur dans l'horreur et dans la violence. Et il me suffisait, en fait, après avoir lâché mon manuscrit pour corriger des copies ou pour préparer un cours, donc ça pouvait être une semaine à un mois, le rebond passait par une lecture, une relecture silencieuse. Et j'avais l'impression d'entendre à nouveau sa voix, la voix de ce personnage, son flux de conscience et le rythme de sa voix. Alors, ce qui est très étonnant dans le roman, c'est vraiment une convention d'écriture qui fait que on rapporte les pensées d'un personnage au discours rapporté au style direct. Et c'est ce qui se passe, en fait. Mais évidemment, il y a une sorte de linéarité, il y a une sorte de respect d'une chronologie ou un travail sur le temps qui fait que ça ne correspond pas vraiment à ce que pourrait être l'expression d'une pensée qui peut se faire par image, qui peut se faire par bout de phrase, par sensation. Donc, en fait, c'est une pure construction du discours.
Alors, on peut conseiller la lecture de Frères d'âme par Omar Sy, qui a été enregistré à l'été 2021 à Avignon, donc, pour France Culture. Vous dites que c'est une voix intérieure et effectivement, en tant que lecteur, alors c'est un ressenti personnel, mais je le partage, en tant que lecteur, quand on lit Frères d'âme, on entend le texte dans la tête. Mais le lire à voix haute, ça n'est pas du tout évident. Néanmoins, et comme on vient de parler de ce rythme et de cette langue, je pense que c'est important qu'on l'entende. Et donc, comme vous m'avez dit, quitte à le regretter, que dans certains pays, on vous faisait à vous lire des extraits de votre livre, ben on va vous écouter nous lire un extrait que vous avez choisi de Frères d'âme, David Diop.
Alors, je vais lire beaucoup moins bien qu'Omar Sy, mais je vais quand même me lancer. Le début du chapitre 24 de Frères d'âme. Je suis l'ombre qui dévore les rochers, les montagnes, les forêts et les rivières, la chair des bêtes et celle des hommes. Je dépouille, je vide les crânes et les corps. Je coupe les bras, les jambes et les mains. Je fracasse les os et j'aspire leurs moelles. Mais je suis aussi la lune rouge qui se lève sur le fleuve. Je suis l'air du soir qui agite les feuilles tendres des acacias. Je suis la guêpe et la fleur. Je suis aussi bien le poisson frétillant que la pirogue immobile, le filet que le pêcheur. Je suis le prisonnier et son gardien. Je suis l'arbre et la graine qu'il a donnée. Je suis le père et le fils. Je suis l'assassin et le juge. Je suis les semailles et la récolte. Je suis la mère et la fille. Je suis la nuit et le jour. Je suis le feu et le bois qu'il dévore. Je suis l'innocent et le coupable. Je suis le début et la fin. Je suis le créateur et le destructeur. Je suis double.
Merci beaucoup, David Diop. Alors, lorsqu'on lit Frères d'âme, qui est un roman court, 176 pages, très dense, on a l'impression, et sans doute est-ce dû à ce flux, qu'il a été écrit d'une traite. Est-ce que c'est le cas ?
Alors, il y a eu des interruptions, mais j'ai le sentiment, en relisant le manuscrit, que j'écrivais sous une dictée. Et il y a très peu de ratures. Et en effet, j'ai l'impression qu'il y a eu un flux qui m'a emporté. Et je me laissais guider par ce flux. Mais en même temps, une maîtrise aussi. C'est-à-dire qu'il fallait que je ne perde pas de vue ce rythme. C'était une situation très bizarre où j'avais l'impression de me laisser porter par ce flux et en même temps j'essayais de le maîtriser ou en tout cas de contrôler l'effet qu'il pouvait avoir sur moi déjà. Ça a été assez rapide si je calcule matériellement le temps que j'ai mis à l'écrire.
parce qu'il a, vous nous en avez parlé donc au début, il a mûri pendant longtemps, mais l'écriture en elle-même, c'était combien de temps finalement ? Est-ce que vous arrivez à dire ça ?
Oui, alors je pense qu'en temps cumulé, ça a dû être une année, je pense, mais je pouvais écrire une heure et demie, et puis arrêter une semaine ou un mois. Sur la fin, quand même, non, c'était plus soutenu. Mais dans l'ensemble, je vois comme une écriture rapide. Mmh. Et je pense que c'est parce que je mûrissais ce sujet depuis longtemps. Il y avait comme, finalement, dans l'acte d'écrire, une sorte d'aboutissement. Mais au bout d'un long processus que je ne maîtrisais pas tout à fait.
Et vous n'avez pas non plus tout à fait maîtrisé la réception, en tout cas elle vous a un peu dépassé peut-être comme vous le disiez tout à l'heure. Voilà, les prix, les traductions à travers le monde, Barack Obama qui le met dans ses recommandations de lecture et ça continue puisque le livre va être porté au cinéma par Omar Sy qui en a acquis les droits. Ce succès de Frères d'âme, David Diop, comment l'avez-vous vécu ? On imagine que ça change, bah déjà vous avez fini par accepter de vous dire écrivain, mais ça change un peu la vie quand même, non ?
Oui, alors pour parler de choses concrètes, je voyage beaucoup. Je suis allé dans des pays où je n'aurais jamais imaginé pouvoir aller et où j'ai rencontré des lecteurs qui ont été tous extrêmement bienveillants. J'ai l'impression que certains de mes étudiants me prennent plus au sérieux quand je parle de littérature. Mais d'une manière générale, dans le fond, ça n'a pas non plus fondamentalement changé mon rapport à la littérature et à l'écriture. Je prends un très grand plaisir à discuter de Frères d'âme, à répondre aux questions. Mais une fois que j'ai commencé La Porte du Voyage sans retour, l'écriture du roman suivant, mais je suis absorbé par La Porte du Voyage sans retour. Je vis avec les personnages et j'oublie un peu Alpha Ndiaye et Madame Diop. Donc je fonctionne en fait par passion exclusive successive, par préoccupation, par vraiment le partage d'une vie avec des personnages qui me hantent et donc ça cloisonne dans le fond les textes. Et c'est ce qui aussi fait que j'ai le sentiment que ma vie change. C'est-à-dire que je me laisse posséder par l'histoire que je raconte plus facilement qu'avant. Parce que je sais qu'elle a des chances d'être lue.
Alors justement, La Porte du Voyage sans retour, qui est donc sortie en août 2021, c'est donc un roman qui est construit autour de ce personnage de Michel Adanson, donc naturaliste, botaniste, français, qui a réellement existé, on l'a dit, savant des Lumières, qui est allé au Sénégal durant 4 ans. Entre votre premier roman et Frères d'âme, il y avait 6 ans. Là, finalement, entre 2018 et 2021, c'est assez court. Et donc, ça veut dire que ce roman, La Porte du Voyage sans retour, il est né, en tout cas, il est arrivé alors que vous étiez encore dans cette vague de Frères d'âme. Donc, comment est-ce que s'est passée l'écriture de La Porte du Voyage sans retour ? Est-ce que là aussi, finalement, c'est un roman alors où le lien avec vos travaux d'universitaire, effectivement, est le plus direct et le plus visible, puisque vous travaillez sur les représentations de l'Afrique et des Africains en Europe au XVIIe, XVIIIe. Mais donc, ce roman-là... était-il aussi en vous depuis longtemps ? Et finalement, est-ce que c'est pour ça qu'il a réussi à se faire une place au milieu de la tempête, frère d'âme ?
Oui, probablement. J'ai eu envie vraiment de me remettre à écrire. Parce que là, ce que j'ai découvert en devenant écrivain, c'est qu'il y avait plusieurs phases. Il y a la phase d'écriture, ensuite la phase de l'échange avec l'éditeur qui découvre le texte, et ensuite la rencontre avec les lecteurs. Et la rencontre avec les lecteurs, elle est passionnante, mais elle est centrée sur un retour en arrière, sur ce qui a déjà été dit, ce qui a déjà été écrit, même si c'est absolument passionnant puisqu'on est renvoyé à son texte, qu'on perd peut-être de vue aussi au fur et à mesure, on n'est pas dans l'acte d'écrire. Et ça me manquait. Et donc, j'avais envie vraiment de mettre en scène ce personnage de Michel Adanson qui fait le voyage en sens inverse par rapport à Alpha Ndiaye, c'est-à-dire qu'il vient de France en Afrique, au Sénégal plus précisément, alors qu'Alpha Ndiaye venait en France faire la guerre. Là, je me suis pris au jeu, je me suis replongé dans ce que je me souvenais de Michel Adanson, de ce que j'avais lu, des impressions que j'avais eues en lisant son texte. Son récit de voyage, voilà, qui est fort bien écrit. Qui a été publié en 1757. Et puis, un des déclencheurs, ça a été aussi la visite d'un historien sénégalais, Ousmane Seydi, qui était doctorant à l'époque dans une université suisse, et qui de ce fait avait une bourse assez consistante, lui permettant de venir passer un mois avec moi pour qu'on discute et qu'on travaille autour de Michel Adanson, qui était son sujet de thèse d'historien. Et il est arrivé en me disant, Monsieur Diop, votre article sur Michel Adanson, je l'avais publié quelques années auparavant, est très bien, mais il n'est pas complet du tout. J'ai ravalé ma fierté de maître de conférence, et je lui ai demandé des preuves. Il m'a expliqué qu'en effet, lui avait été voir au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris les brouillons de Michel Adanson. Et alors, si jusque-là, j'étais au bord du précipice, au bord du moment où j'avais envie d'écrire, alors là, ça a été vraiment la chic note qui m'a fait tomber dans le précipice. Parce que j'ai, grâce à Ousmane Seydi, découvert des choses du voyage intime de Michel Adanson au Sénégal. Une collection de contes, parce qu'il parlait Wolof, retranscrits du Sénégal du XVIIe siècle, hein. Des histoires, des considérations, un dictionnaire français Wolof, des petites historiettes. C'était donc passionnant. Et ça m'a rendu encore plus attachant à Michel Adanson. Et parmi ces petites histoires, il y avait l'histoire transcrite du Wolof et en caractère romain, hein, d'une jeune femme qui tombe visiblement sur un jeune homme qui vient de l'extérieur et qui se refuse, ou en tout cas qui refuse ses avances, qui fait preuve de beaucoup de pudeur. Et j'ai tout de suite imaginé que ça pouvait être Michel Adanson. Et j'ai donc inventer une histoire d'amour, un voyage secret du Michel Adanson, une sorte de voyage dans le voyage, un tiroir ouvert dans son voyage, parce que vraiment c'est un personnage qui m'a séduit et qui m'a emporté dans ses pérégrinations.
La part cachée du voyage de Michel Adanson, effectivement, donc c'est celle que vous imaginez, c'est le lieu de la fiction, principal lieu de la fiction dans ce roman La Porte du Voyage sans retour. C'est donc la rencontre avec cette femme, Maram, qualifiée de revenante, car elle parvient à échapper à l'esclavage et à l'île de Gorée qui l'attendait après avoir été vendue contre un fusil au directeur de la concession du Sénégal. L'histoire d'amour, donc, c'est la principale part de fiction. Vous avez là aussi, vous nous l'avez dit, eu un travail au long cours, finalement. Pourquoi avoir mis la part de fiction à cet endroit, justement ? Est-ce que c'est pour aussi retrouver une dimension affective, celle dont vous parliez au début, celle qui, parce qu'elle touche à l'émotion, va peut-être nous permettre de regarder cette histoire différemment ? Est-ce que c'est ça ?
Oui, je pense qu'il y a une transversalité des émotions et que pour finalement arriver à s'imaginer ce qu'ont pu vivre des gens qui semblent éloignés de nous par l'époque dans laquelle ils vivaient, eh bien, on peut, grâce à ces émotions qui sont activées par l'écriture de la fiction, nous les rendre proches. Dans le cas de Michel Adanson et de Maram, il n'y a pas de réalisme dans le fond, puisque c'est une histoire d'amour qui est impossible. Mais il y a une forme, si vous voulez, de volonté de créer des personnages un peu mythiques qui représentent chacun. L'un, pour Michel Adanson, l'esprit des Lumières, la rationalité, la raison toute puissante et triomphante. Et l'autre, Maram, qui représente une autre façon de voir le monde, un rapport à la nature qui n'est pas celui de Michel Adanson, qui a un rapport de coopération avec la nature. Donc j'ai voulu finalement, à travers ces deux personnages, leur histoire d'amour, les mettre face à face, face dans le fond à... pour Michel Adanson notamment, eh bien les apories de sa pensée, de la raison, et montrer qu'il y avait d'autres rapports au naturel et au surnaturel, à cet homme des Lumières.
Cet homme des Lumières dont la particularité est d'avoir appris le Wolof, effectivement. Quand il est arrivé au Sénégal, il ne parle quasiment que Wolof pendant son voyage, à tel point qu'à la fin, il dit qu'il a l'impression de se sentir nègre tellement il s'est imprégné de cette langue. Alors, pour Frère Dame, nous allons reparler des prix tout à l'heure, mais juste voilà pour rappeler que donc vous avez reçu l'International Booker Prize, que vous partagez avec votre traductrice en langue anglaise, Anna Moskovakis, puisque donc ce prix, c'est un prix qui récompense chaque année un roman traduit en anglais. Il y a eu énormément de traductions de Frère Dame. Vous en êtes à combien ?
33.
Voilà. Et alors, c'est intéressant qu'on parle de traduction parce que c'est un thème qu'on retrouve dans vos livres, y compris dans Frère Dame. Vers la fin, juste après le passage, en fait, que vous nous avez lu tout à l'heure, il y a ces quelques lignes. Traduire, ce n'est jamais simple. Traduire, c'est trahir sur les bords, c'est maquignonner, c'est marchander une phrase pour une autre. Traduire est une des seules activités humaines où l'on est obligé de mentir sur les détails pour rapporter le vrai en gros. Traduire, c'est prendre le risque de comprendre mieux que les autres que la vérité de la parole n'est pas une, mais double, voire triple, quadruple ou quintuple. Traduire, c'est s'éloigner de la vérité de Dieu qui, comme chacun sait ou croit savoir, est une. Est-ce votre vision de la traduction, David Diop ?
En tout cas, Anna Moskovakis, qui est ma traductrice américaine, a beaucoup apprécié ce passage et elle explique que ça a été comme une sorte de blanc-seing pour elle pour prendre certaines libertés, ou en tout cas, elle s'est mieux sentie quand elle a lu ce passage et qu'elle était en train de traduire Frère Dame. Il y a quand même dans la traduction une difficulté essentielle, c'est le transfert d'un horizon culturel. Michel Adanson me plaît parce qu'il a compris que pour apprendre une langue, il fallait assimiler le contexte culturel, l'horizon culturel. Et pour un homme des Lumières, au XVIIIe siècle, c'est extrêmement difficile, parce que il y a une dévaluation qui est faite du monde dans lequel on arrive en conquérant. Et je pense que les meilleures traductions, ce sont ces traductions qui se laissent la possibilité d'adapter des images différentes, des réalité donc extrêmement différente, à un horizon culturel qui n'est pas celui du texte qu'on traduit. Donc, dans la traduction, il y a toujours évidemment une approximation. Je ne vais pas reprendre la formule, traduire, c'est trahir. Bon, il y a aussi une fidélité au texte que je trouve admirable. Quand j'échange avec mes traducteurs, ils ont la volonté d'être extrêmement fidèles au texte, au rythme du texte. Donc, il faut prendre cette phrase que vous avez lue aussi comme un moyen de mettre en évidence la difficulté de transférer ces horizons culturels, de les faire passer de l'un à l'autre. Et puis surtout, à ce moment-là de l'histoire, il y avait pour moi une volonté de rendre spectaculaire ce moment d'ambiguïté où on ne sait plus qui parle. Et donc là, la trahison, elle est là aussi. C'est-à-dire que le lecteur est placé dans une situation difficile. Et je joue aussi avec ça.
Alors justement, ça c'est quelque chose de très intéressant, c'est que c'est la fin des romans. À la fin, effectivement, de Frère Dame, il y a du trouble chez le lecteur parce qu'il ne sait plus qui dit « je ». Il pensait qu'il savait tout le long, à la fin il ne sait plus qui dit « je ». À la fin de La Porte du Voyage sans retour, il y a aussi du trouble parce que on pensait qu'on allait. Il y a une rencontre qui peut un peu nous décevoir. Et puis, il y a aussi un changement de point de vue. Même s'il s'exprime différemment, la Porte du Voyage sans retour se termine aussi par un changement de point de vue. Alors, est-ce que ces fins-là, est-ce que vous les avez en tête ? Est-ce que vous savez que la fin de Frère Dame, elle sera comme ça ? Est-ce que vous le saviez dès le début, pour le coup, vous ?
Déjà, la fin est dans le début. C'est-à-dire que dès les premières lignes de Frère Dame, il y a une voix qui est troublée. Je mets en place une voix qui répète à plusieurs reprises qu'elle est double. Dans le fond, l'écriture m'a préparé depuis le début du roman à une fin qui reprendrait cet élément qui est essentiel pour moi, cette ambiguïté liminaire. Donc, vous dire après que j'avais prévu très précisément de finir comme cela, non. J'avais comme une sorte d'attente. Je savais qu'il fallait que j'arrive à cette fin, mais je ne savais pas comment. Et je l'ai découverte, cette fin, en me la donnant à lire et en l'écrivant. C'est très étrange. C'est un peu comme ces situations où on est dans la vie et où on a l'impression d'avoir vécu déjà ce qu'on vit. Alors, il paraît que c'est un phénomène cérébral qui fait que il y a une sorte d'instantanéité et qu'on a l'impression que c'est une mémoire ancienne qui revient alors que c'est presque simultané, la chose vue et le souvenir de cette chose. Bien, c'est un peu ça. Au moment de l'écriture de cette fin, et un peu aussi la même chose pour La Porte du Voyage sans retour, j'ai l'impression de découvrir en écrivant ce que j'attendais. C'est pas prémédité, mais en même temps, c'est longuement médité. C'est très étrange comme situation.
Est-ce que vous avez des difficultés ou pas du tout à terminer vos romans, à savoir qu'ils sont terminés ? Comment ça se passe ce moment-là ?
C'est un sentiment, une sorte d'aboutissement, en effet. C'est comme si j'arrivais au bout d'un chemin. Ce qui est étrange, c'est que quand j'écris donc une fiction, j'ai des images mentales et j'ai l'impression de voir comme des arborescences. Et pour le figurer, je dirais que j'arrive à un carrefour, que j'ai plusieurs possibilités qui s'ouvrent à moi. Et quand j'en choisis une, j'anticipe forcément sur les suivantes, d'une certaine manière. Donc il y a comme une sorte d'intuition. Eh bien, c'est quand j'arrive au bout de cette intuition que je pense que j'ai fini. Et cette intuition qu'il n'y a plus de ramifications possibles après un dernier choix. Et ça m'arrive donc pour Frère d'âme, mais ça m'arrive également pour La Porte du Voyage sans retour.
Et donc, une fois que vous le savez, que vous avez cette intuition, vous êtes sûr, vous êtes certain ?
Oui. oui, j'ai l'impression d'être arrivé à ce que je pensais vouloir dire. Après, évidemment, j'attends une première lectrice qui est mon épouse, qui va me dire ce qu'elle en pense. Mais ça y est, le texte ne m'appartient plus. Je l'offre à lire. On passe à cette étape de la lecture par d'autres.
Parmi les prix que vous avez reçus pour Frères d'âme, il y en a un qui n'est pas toujours cité, mais qui compte, je crois, beaucoup pour vous. C'est le prix Kuruma, qui distingue donc chaque année un ouvrage de fiction ou un essai consacré à l'Afrique subsaharienne. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce prix et aussi de celui qui lui a donné son nom, l'écrivain Amadou Kuruma ?
Oui, c'est un écrivain que j'aime beaucoup. C'est vraiment un écrivain, pour moi, très, très important, passionnant. C'est de lui que j'ai trouvé ma méthode de transcription du flux de conscience d'Alpha Ndiaye dans Frères d'âme. C'est lui qui, le premier, s'est trouvé une langue d'écrivain en français qui évoque une autre langue. Lui, c'était le malinké. C'est une langue qui est parlée en Afrique de l'Ouest, au Mali essentiellement, mais aussi au Sénégal, en Guinée. Dans ses livres, il travaille la langue française sans tabou, sans remords, sans complexe. Et donc de lui, j'ai retiré des images ou des façons de faire qui m'ont donné la clé pour entendre la voix de mon personnage. Donc c'est un prix pour moi extrêmement important et j'étais extrêmement honoré de le recevoir.
Est-ce que vous avez ce genre de rapport à d'autres écrivains ? C'est-à-dire, est-ce que vous avez des grandes figures comme ça qui vous ont donné envie d'écrire, qui vous ont inspiré, ou est-ce que ça n'est pas de cette nature, votre rapport aux auteurs ?
Ce sont des auteurs très inspirants et c'est rétrospectivement, justement, quand on me demande de dire les textes qui m'ont influencé, que je réfléchis à ces questions. Et on parlait de fin tout à l'heure. Moi, je trouve admirable la fin du Procès de Kafka. Et je crois, rétrospectivement, que ça a beaucoup influencé non seulement la fin de Frères d'âme, mais la façon dont j'ai amené cette fin. C'est une fin dans le procès qui me bouleverse chaque fois, qui est extrêmement saisissante. Ce sacrifice humain du personnage principal au bout de cette errance dans des labyrinthes. C'est un auteur, je pense, Kafka, qui m'a beaucoup influencé. Mais il y en a d'autres. L'Iliade, par exemple. Le chant 23 de l'Iliade, où Patrocle arrive près d'Achille et lui dit « À quoi songes-tu ? Tu m'as oublié, Achille ?» ou une phrase approchante. M'a inspiré beaucoup aussi ce retour d'entre les morts, ce passage un peu comme celui d'Orphée et d'Eurydice, hein, où on revient d'entre les morts, m'ont beaucoup frappé. Albert Cohen aussi, Belle du Seigneur, ce traitement du discours rapporté et du psychorécit, pour moi c'est vraiment une maîtrise extraordinaire. Donc j'ai beaucoup de textes dans le fond qui ont sédimenté en moi. J'adore Diderot, Jacques le Fataliste et son maître, et il y a des traces de Jacques le Fataliste et son maître dans La Porte du Voyage sans retour. Il y a Michel Adanson qui a Ndiak, ce fixeur, comme on pourrait dire, hein,
comme aujourd'hui,
qui, dans le fond, trouble ou en tout cas déjoue ce rapport du maître et du valet, et j'ai trouvé beaucoup d'inspiration dans ces textes-là.
Vous lisez aussi les auteurs pour votre travail donc d'universitaire. Vous êtes toujours, et vous comptez le rester, je crois, donc maître de conférence en littérature du 18e à l'université de Pau. Vous nous avez dit tout à l'heure, voilà, il y a l'ordinateur en gros pour les cours, le stylo pour les romans. Comment est-ce que vous faites l'articulation entre les deux et aussi de manière assez pratique finalement? Comment est-ce que vous écrivez vos romans dans les interstices, pour reprendre ce mot que vous utilisez souvent, de vos cours, de vos travaux d'enseignant-chercheur?
Les textes, évidemment, universitaires, les travaux universitaires ont toujours des notes de bas de page. Et parfois, il y a certaines pages qui sont dévorées par les notes de bas de page. Et donc pour moi c'est ça, c'est-à-dire ne rien avancer qui n'ait été prouvé par une recherche précise, assidue, et qu'on remontre, comme on dit au XVIIIe siècle, c'est-à-dire qu'on prouve dans la note de bas de page. Eh bien, j'aime bien rêver à partir des notes de bas de page. J'aime bien, dans le fond, une fois que j'ai écrit quelques notes de bas de page, laisser mon imagination courir librement. Je pense que l'un et l'autre sont liés. Le travail universitaire de recherche m'apporte une méthodologie pour aller chercher, traquer des informations. C'est ce qui me plaît d'ailleurs dans ce travail-là. Mais en même temps, je me débarrasse des notes de bas de page quand j'écris de la fiction. Je me libère en fait du devoir dire vrai ou du devoir dire exactement la vérité. Je la dis d'une façon différente.
Vous disiez tout à l'heure que ça n'est pas qu'une disposition, mais c'est aussi, il faut avoir le temps d'écrire, avoir des conditions peut-être d'écriture. Comment les trouvez-vous?
Alors je les trouve dans les moments où je n'ai pas cours, c'est-à-dire plutôt pendant l'été, une partie de l'été. Donc là, ce que j'arrive à faire, c'est d'essayer de me ménager des plages d'écriture, en ayant aussi une vie de famille, donc... Mais c'est ce qui est intéressant pour moi, c'est de jongler entre la fiction et la réalité.
Alors, David Diop, on a parlé tout à l'heure la réception de la lecture, des lecteurs qui peuvent parfois voir dans vos romans des choses que vous n'y avez pas forcément mises, ou en tout cas pas volontairement. Vous ne semblez pas particulièrement rechercher la lumière, vous gardez souvent en interview une certaine distance avec la politique, la polémique, vous n'aimez pas tout commenter. Néanmoins, il vous arrive de proposer une parole dans l'espace public, hors de la littérature. En 2019, vous aviez été invité aux commémorations du 15 août et vous aviez prononcé un discours en hommage aux tirailleurs sénégalais dont les noms nous rappellent la part monde de l'identité française, c'était vos mots. En cet hiver 2021, vous avez publié dans Le Monde une tribune intitulée « Les pays du Nord sont sans pitié pour les pauvres, mais les migrants ne le croient pas ». Il y est question de ces hommes, de ces femmes qui meurent en mer en tentant de rejoindre l'Europe, des raisons pour lesquelles ils et elles partent de leur pays, de la manière dont leur mort est vue d'ici, souvent d'abord par des chiffres. La question, David Diop, c'est celle de la place de l'écrivain et de sa parole publique dans la société. Quelle idée vous faites-vous de cette place et comment la prenez-vous ?
Alors, vous l'avez dit, je ne suis pas très porté à parler de sujets qui sont autres que ceux que j'aborde le plus souvent autour de la littérature, de l'écriture. Mais il se trouve que pour la tribune que j'ai écrite dans Le Monde, j'ai pensé que si j'avais une petite notoriété, il fallait que je fasse état d'un phénomène actuel qui me touchait profondément. Qu'est-ce qui me touche, c'est de voir, et comme tout le monde, des migrants qui meurent. Et cette idée m'est venue parce que j'avais lu un article dans Le Monde, justement, autour d'un artiste algérien qui s'appelle Rachid Kouraïchi et qui a créé un jardin-cimetière qu'il appelle le cimetière de le jardin de l'Afrique, où il recueille les restes des migrants qui sont jetés ou rejetés sur la côte tunisienne après leur naufrage. Et pour moi, si vous voulez, c'est une question extrêmement grave, une question extrêmement dure, une question qui nous préoccupe tous, cette question de la migration, autour de cette envie de partir, quitte à trouver la mort, de perdre la vie. Ça me paraît absolument fondamental d'une évolution, je pense, de notre monde. On va, je pense, vers de très grandes migrations, plus ou moins imposées par la guerre ou par des problèmes climatiques. Et je suis donc sorti, en fait, de ma réserve pour faire état de cette chose qui me touche extrêmement fortement, qui me touche de façon très violente. Alors, je ne sais pas si j'aurais dû le faire, mais en tout cas, il m'a semblé que peut-être si je pouvais écrire des choses sensées qui évoquent au lecteur le caractère dramatique de cette situation, même si ça ne change pas grand-chose, mais au moins échanger sur cette question, eh bien, peut-être que je pouvais me le permettre.
Parce que vous êtes un écrivain aujourd'hui.
Je pense.
Merci, merci beaucoup David Diop de nous avoir ouvert votre laboratoire, de vous être prêté à cet exercice de la masterclass ici à l'espace Cardin, Théâtre de la Ville à Paris. Merci beaucoup.
Merci à vous.
C'était la masterclass de David Diop avec Chloé Cambrelin, enregistrée au Théâtre de la Ville, Espace Cardin. Prise de son, Benjamin Perru et Stéphane Beaufis. Réalisation, Louise André et Peyrey Legras. Attaché de production, Sylvia Favre. Coordination, Christine Bernard.